crois qu'à travers ce qu'a dit Matt Westin aussi, il y a une dimension qui lui paraissait sans doute évidente, mais sur laquelle Francis pourra sans doute témoigner, c'est que ce sont des parlementaires. Et comme parlementaires, ils ne font pas que préparer les lois. C'est aussi des femmes et des hommes de terrain. C'est des gens qui portent au Parlement européen ce qu'ils entendent dans leur circonscription, de certaine manière, dans le lieu de leurs électeurs, et qui interviennent donc dans un champ qui est le champ social d'une manière générale. Donc il y a la dimension institutionnelle, mais cette dimension institutionnelle, bien sûr, est un des lieux dans lequel s'exprime, ça a été dit, disons, à travers les institutions, mais aussi, il faut avoir en tête que ce sont des femmes et des hommes qui sont sur des terrains, qui peuvent participer à telle ou telle action, qui portent telle ou telle orientation. Donc, c'est une des dimensions du Parlement aussi, dans cet aller-retour, en quelque sorte. Et c'est ça qui légitime aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir ce qui se passe dans la société trouve des formes d'expression dans tel ou tel rapport de force sur telle ou telle question, et avec cette particularité donc qui sont ces majorités qui ne sont pas assimilables à ce que nous connaissons comme majorité, notamment dans un pays comme la France. Je pense que ce qui a été dit est très clair sur le fait que ce n'est pas un lieu fermé, que disons qu'il faut donc mieux s'expliquer, beaucoup plus s'expliquer sur le fait que ce n'est pas le lieu où il ne se passerait rien, ou en tout cas tout ce qui se passerait serait étranger à la vie quotidienne et aux citoyens. Ce qui est intéressant peut-être maintenant, c'est de voir dans quel moment on est. Ce qui est intéressant justement de voir que cette institution-là n'est pas une institution fermée, décidée, disons, abstraite en quelque sorte, ou complètement déconnectée du réel, c'est que sa composition elle-même est le résultat des évolutions qu'il y a dans les opinions publiques et des évolutions des rapports de force politique. Donc, suivant les votes qu'il y a dans chaque pays, on a déjà des projections. Les projections qui se font aujourd'hui sur les évolutions du prochain Parlement ne sont pas, c'est pas simplement des sondages, si vous voulez, sur ce que vous allez voter, mais ça peut se faire à partir de quels sont les résultats de chaque force politique d'extrême droite, de centre-droite, de centre-gauche, de gauche et d'extrême-gauche, et à partir de là, vous pouvez dire, en fonction des groupes, il y aura tel ou tel rapport de force. Donc, il faut prendre toutes ces choses-là avec énormément de précautions, mais ça donne des tendances. Si par exemple vous dites, c'est assez facile à comprendre, dans des grands pays comme l'Allemagne, l'Italie, la France ou l'Espagne, je dis grands pays en termes d'électeurs et donc de députés, de parlementaires à un moment donné, si par exemple vous avez une situation à l'espagnol où émerge un parti politique qui s'appelle Vox dans les élections andalouses et dont nous verrons quelle place il occupera dans les prochaines législatives du mois d'avril, vous voyez bien que ça aura une influence. Ça peut avoir une influence, en tous les cas, au moment du choix des députés. Si nous prenons le cas de l'Italie, la situation n'est pas la même depuis le 1er juin 2018 avec l'alliance Salvini-Di Maio, où donc vous avez au gouvernement de ce grand pays italien, une alliance entre le populiste et l'extrême droite. Et vous voyez bien que ça, si vous le projetez, ça vous donne aussi une configuration dans la représentation italienne au Parlement européen. De la même chose, de la même manière en Allemagne, vous avez, si en Allemagne vous avez la montée de ce qu'on appelle l'AFD, donc ça aura telle traduction. Et puis, si vous voyez par exemple ce que l'extrême droite est au pouvoir dans différents pays, y compris l'Autriche ou la Hongrie, etc. Donc vous voyez que là, donc, c'est pas exactement des sondages de vote, mais ça peut vous donner des projections. Et si nous prenons un cas comme la France, nous voyons bien que la nouvelle majorité politique, enfin, la majorité macronienne, en fait, des Macron, si vous voulez, des électeurs de Macron, suivant le type de liste qu'il y aura dans ce pays, la France, eh bien, la configuration de la représentation française, disons, peut se situer d'une manière particulière au sein de l'échiquier européen. Vous voyez, donc, il n'y a pas, si vous voulez, quelque chose d'abstrait, il y a quelque chose qui est aussi connecté avec les évolutions qu'il peut y avoir, qu'elles soient de type politique ou de type social. Si vous prenez par exemple l'impact d'un mouvement comme les Gilets jaunes en France, est aussi un élément, par exemple, qui fait que sur telle ou telle question, la capacité des autorités françaises à mener telle ou telle réforme, compte tenu du contexte social, jouera effectivement aussi dans le débat ou les positionnements qu'il peut y avoir dans une instance de type européen. Donc je voulais dire ça en quelque sorte dans notre propre appropriation de ce que sont des enjeux, évidemment après où chacun fait ses choix. Ce que je viens de dire, évidemment, doit aussi intégrer la question du Brexit, y compris comme une question à la fois politique et institutionnelle, du fait que, de façon institutionnelle, s'il n'y a plus de parlementaires britanniques, eh bien, on a un parlement qui descend donc à 707, c'est ça. Et donc ça modifie aussi les rapports. Par exemple, vous avez un groupe où se trouvaient les conservateurs eurosceptiques britanniques, eh bien, et qui comprenaient 70 membres, je crois. Hein, je travaille là, je parle toujours très, très sous contrôle de Gérard avec Francis. Donc, si effectivement le Brexit se met à fonctionner à ce moment-là, ce qui n'est pas tout. Enfin, bon, il y a encore des doutes, mais prenons cette hypothèse-là. À ce moment-là, il y a ce groupe-là qui, lui, va disparaître ou éclater d'une certaine manière, et donc là aussi, ça peut participer de recomposition. Donc, on est dans un moment dont tout le monde dit, c'était le titre du Monde d'hier, donc c'est pas très original, mais c'était aussi le titre de toutes les études qui sont parues dans les dernières semaines, c'est un moment d'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui quelle sera exactement la configuration du prochain Parlement. Alors, pas y passer des heures là-dessus, mais c'est intéressant parce que ça donne aussi l'impression, ça donne aussi conscience au moins de la mobilité de ce que représente cette institution qu'on imagine tellement extérieure qu'on la voit comme complètement figée. Or, elle n'est tout sauf figée, y compris parce que, comme l'a bien expliqué Gérard, et comme le dit aussi Marie-Christine, comme ce sont des majorités flexibles, en quelque sorte, en fonction des... La composition peut être différente. Le type d'alliance, par exemple, s'il y a un groupe de libéraux beaucoup plus important, comme si jamais les élus disons sous le titre macronien, pour dire les choses à la française, si vous voulez, dans cette mouvance-là, disons, de la République en marche, suivant s'ils intègrent un groupe particulier, ça fait vraisemblable, mais après, est-ce que ça votera plutôt avec une droite modérée? Est-ce que ça votera plutôt avec des restes? Vous voyez, ça laisse des espaces dont on verra effectivement ce qui se passera. Et d'ailleurs, une des premières épreuves, et ça il faut l'avoir en tête, c'est très institutionnel, mais ça aura une signification, c'est qu'un des premiers votes qu'il y aura, ce serait celui de la désignation du président de la commission, suivant des règles choisiront les députés à ce moment-là, mais vous voyez bien que là, les rapports de force, effectivement, joueront pour savoir ce qui va se passer. Donc, juste, sans vouloir trop entrer dans le détail, au moins, pour avoir au moins une idée, pour avoir une idée de ce qui peut se passer dans le prochain Parlement, donc là, on a l'ancien Parlement qui a 551 sièges. C'est dommage, là, il n'y a pas les comptes on ne voit pas assez bien les différences, mais pour se comprendre, on considère les chiffres, ça, mais très rapidement pour vous avoir des suites, la droite, le Parti Populaire Européen, qui a aujourd'hui 221 députés, en aurait 177, donc en perdrait 44. Hein. Là, on est sur... attendez, là, combien on est là? C'est le prochain. Bon, on leur en donne... On leur en donne 183, parce que, oui, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que ça dépend sur quelle pondération des votes on fait, hein, dans la dernière période. Mais en gros, on compte sur une quarantaine, la droite perdrait une quarantaine de députés, et les socialistes en perdraient une soixantaine. Donc vous voyez, c'est ce qu'on dit. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces deux grandes forces qui s'affaiblissent, donc, ça correspond aussi à un affaiblissement des grandes forces de ce type-là dans les autres pays d'Europe. Le cas des élections de 2017 en France, et là aussi. Mais ça, c'est intéressant parce que ça indique une tendance. Et on aura sans doute un progrès, ne serait-ce parce qu'il y aura un centre sans doute qui sortira renforcé. On pense que le groupe de centre, qui s'appelle d'accord, le groupe des libéraux, pourrait lui gagner une trentaine de sièges, pourrait passer d'une soixantaine à une centaine à peu près. Les Verts, eux, ça dépendra, mais il faut. On a parlé de vagues vertes à un moment donné, mais ça sera pondéré, parce qu'il y aura des pertes sans doute. Enfin, ils n'auront pas toutes les dynamiques dont ils ont bénéficié dans certains pays. D'ailleurs, le groupe des Verts, si on prend les projections, serait essentiellement composé de députés d'Allemagne. Enfin, bon, ça, on verra. Et à gauche, donc, on aurait un certain maintien du chiffre actuel. Et là, je ne rentre pas dans ce que peuvent être, évidemment, les répartitions par pays. Mais là, on aurait une stabilité. Évidemment, ce qu'on regarde tous de très près, c'est tout le monde, c'est quelle va être la place des comment va se redistribuer, disons, le courant soit anti-européen, soit eurosceptique, et d'extrême droite à droite. Et quelle va être la place et l'influence de l'extrême droite, dont tout à l'heure je disais qu'elle participe au pouvoir dans plusieurs pays, on voit bien en Italie, on voit bien le rôle qu'elle peut jouer maintenant en Espagne, et directement à la fois à travers les forces explicitement extrême droite, ou, enfin, ou nationaliste, si vous voulez, ou souverainiste, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, et l'influence aussi en termes d'idées, c'est-à-dire dans quels sont les thèmes que porteront ces genres de forces à l'intérieur même du Parlement, et donc, par exemple, l'influence que peut avoir l'AFD en Allemagne, enfin, le courant critique, européen critique, si vous voulez, sur la CDU, sur le parti d'Allemagne. Je prends un peu cet exemple-là, mais c'est pour qu'on voit bien que cet espace-là est un espace qui n'est pas un espace fermé où tout serait joué, tout serait décidé, mais où vont se jouer comme toujours, des rapports de force, mais qui auront une influence. Voilà. Je ne développe pas là-dessus, mais c'était parce que vous allez lire dans les jours qui viennent tous, les uns et les autres, des comparatifs entre les différents parlements, disons les projections. Ce sera intéressant de voir, disons, le comparatif, parce que ce comparatif n'est pas simplement un comparatif numérique, il est aussi un comparatif de quelles orientations ce Parlement pourra porter et sur quel thème. Ce qui m'amène à la deuxième série de remarques. Tu me dis, pour sortir l'eurobaromètre, pour voir où on en est à peu près de l'état d'opinion, j'ai pris juste un baromètre qui a l'avantage que c'est un baromètre qui est fait au niveau de l'Union européenne, sur tous les pays en même temps, sur la même question, et vient de sortir il y a 8 jours le baromètre qui a été fait à l'automne dernier. Donc, ce qui est intéressant, je vais prendre juste quelques cas là-dedans pour montrer quelles sont les grandes questions qui émergent et comment les opinions peuvent se positionner sur telle ou telle question, sans que ça préjuge évidemment de ce que seront les votes. Alors, c'est pas le même d'abord. Comme je prends que quelques exemples, je vais aller à telle ou telle page. 6, 7, 8, 9, voilà. Vous avez là, c'est bien ça, oui, c'est ça. C'est le niveau de confiance dans l'Union européenne. Les commentaires que font l'eurobaromètre, c'est qu'ils disent que 4 Européens sur 10 ont confiance dans l'Union européenne, etc. Bon. En gros, c'est assez stable. Il y a une... C'est vrai qu'on est à 42% qui ont une opinion favorable, enfin, oui, confiance en quelque sorte dans l'Union européenne, qui est supérieure, disent les commentateurs, à confiance dans les parlements nationaux. Bon, d'accord. Ce qui est plus intéressant que les généralités, là, c'est ce schéma-là. Regardez, vous avez là la moyenne, vous l'avez. C'est facile. Regardez. Là, vous avez la moyenne sur l'Union européenne. Hein. La moyenne sur l'Union européenne, c'est un soutien de 42%, mais quand même une défiance de 48%. Et ce qui est intéressant, alors on pourrait, évidemment, les commentateurs de l'Union européenne disent qu'il y a plus de pays qui ont confiance que de ceux qui ont moins de confiance, mais regardez que vous avez là des pays comme l'Espagne, seulement 38% qui ont confiance, et avec une opposition de 54% quand même. Faible opposition, non-confiance, 54%, l'Espagne. Vous avez l'Italie. Alors, l'Italie, c'est tout à fait un phénomène absolument à avoir en tête, c'est que l'Italie a été un des grands pays fondateurs de l'Union européenne, ça a été le grand pays fédéraliste créateur de l'Union européenne, et donc, qui ne s'imaginait pas en dehors de l'Union européenne, et là où il y a un niveau de défiance qui est de 55%. ça, c'est un élément très important dans aujourd'hui. Et si on prenait ici, on prend la France, on voit 33% de confiance. Vous voyez, c'est un des derniers. Et un niveau de non-confiance, vous voyez, plutôt confiance ou pas confiance, un niveau de 57. Et même si on prenait un pays comme la Belgique, qui est un pays extrêmement marqué c'est le pays européen par, si je puis dire, en quelque sorte, par excellence, pour un des deux points de vue, vous avez quand même un niveau donc, de confiance normal, satisfaisant en quelque sorte, 50%, et vous avez quand même un niveau de confiance de 44%. Donc voilà, ça, je pense que c'est aussi une image, et évidemment, ce qui serait intéressant, je vais le faire maintenant, mais ce qu'il y a en tête, ce seraient les évolutions, et notamment pour les pays dont je viens de parler, qui montrent dans quel est l'état d'esprit dans lequel se situe le moment politique dans lequel nous sommes. Voilà. Il y a un deuxième... je vais prendre un deuxième exemple, qui est une question qui porte sur... est-ce que je considère que ma voix... est-ce que ma voix compte? Bon, moi, quand j'ai regardé ce sondage, je me suis dit, bon, oui, on va voir ce que ça veut dire. Je me disais, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est intéressant de regarder en tendance. Si vous voulez, bon, on va voir après par pays rapidement. On va commencer peut-être même regarder par ça. Est-ce que ma voix compte? Bon, là, vous avez les pays où vous considérez beaucoup que la voix compte. Alors, vous avez l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, les pays nordiques. Vous avez même des nouveaux entrants, comme la Pologne, etc. Là, on aura la moyenne. La moyenne est à 49%. Mais ce qui est... Il y a des choses tout à fait frappantes. Un des pays, par exemple, où majoritairement, quand même, les gens pensent que la voix ne compte pas. Vous avez la France. Vous avez bien sûr la Grande-Bretagne. Mais vous avez même maintenant l'Italie à un niveau absolument... Et un des derniers, évidemment, c'est à 80%, ce sont les Grecs qui considèrent que leur voix ne compte pas en Europe. Mais ça nous donne au moins des tendances sur le sentiment, l'approche qu'il peut y avoir en quelque sorte de la citoyenneté. Ce qui est pas mal, c'est de voir la tendance. Regardez, et ça on l'aura beaucoup de choses. Là vous avez des pointes de défiance et on s'aperçoit que. Dans un cas au moins, pour une autre j'en parlerai, c'est la crise de 2008-2010, vous avez là donc 2008, le subprime, et puis 2010, la crise de ce qu'on a dit, la crise de la dette, on se comprend, on va avoir là un espèce de trou dans les opinions sur toute une série de questions. Vous verrez que si, on va pas y passer tous les diagrammes, mais si vous les regardez, si on les regardait, on verrait qu'on a toujours une zone là liée à la crise. Dans l'accumulation de là, on peut avoir là une certaine stabilité, et vous verrez que quand on reparlera de, par exemple du terrorisme, on verra que là, les pointes évidemment, c'est autour de 2015. Donc on a deux moments de crise, je dirais, on verra aussi que c'est autour de 2015 qu'on va avoir aussi les poussées concernant l'immigration. Après 2015, vous voyez qu'on a en tête certains moments forts de ce qu'ont été les crises européennes, en quelque sorte. À travers, y compris comment se font les évolutions. C'est pour ça que des fois. Alors, je vais passer maintenant à quelles sont les principales préoccupations des Européens. Principales préoccupations. Alors là, c'est la tendance au niveau européen. Vous verrez qu'après, on le fait par pays, mais au niveau européen, on a l'immigration en 1, le terrorisme en 2. Et vous verrez, on verrait que c'est surtout après 2015 que ça se pose. Les finances publiques, la situation économique, le changement climatique. C'est dans l'ordre, ça. Le changement climatique, vous avez vu comment se font les hiérarchies. Et puis, on arrive au chômage, l'influence de l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est de le voir là. Massif immigration, avec une progression, y compris depuis le dernier, qui était. Ce sont les études. De l'automne, il y avait des études au printemps, on a une progression. Le terrorisme, lui, il est plutôt en baisse. Le terrorisme, comme deuxième question. Les finances, c'est stable, mais quand même avec une légère progression. Situation économique, et vous voyez comment les choses peuvent descendre très, très brutalement quand on va prendre des questions, y compris comme l'environnement, ou bien les questions comme les impôts. Donc, on voit bien là comment se dessinent, à l'échelle de l'Union européenne, des grandes priorités dont on peut penser qu'elles vont marquer sans doute la campagne, enfin, la campagne, le débat en tous les cas autour de l'Europe dans les semaines qui viennent. Donc ça c'était la page 16. Ah oui, ça voilà. Quels sont les problèmes auxquels l'Union européenne doit faire face? Donc c'est ça, hein. C'est les grandes tendances. Et vous voyez bien, là vous avez la crise, une crise de concernant la situation économique. Là vous avez la préoccupation donc des années 2010. Hein. On va avoir 2015 le terrorisme. Et on va avoir donc immigration aussi, immigration et terrorisme, on va avoir là un paquet qui montre bien les tendances et les préoccupations des gens. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est au niveau européen, donc ça concerne l'ensemble de la population. Ensuite, on va avoir, page 19, ce qui aussi est indicatif sur l'état des opinions publiques, ça va être alors les tendances par pays. Si vous voulez, suivant le pays où on est, mais là on va le prendre par pays, c'est-à-dire non plus globalement. Et alors là, quand on le prend par pays, quels sont à mon avis les deux problèmes les plus importants auxquels vous doit faire face votre pays, notre pays actuellement? Mais évidemment, après on fait une globale. Alors là, c'est la question sociale qui vient en premier. C'est-à-dire, vous avez une étude qui est faite au niveau global dans les pays, et là on va avoir. Dans chaque pays, on va poser les questions. Et quand on regroupe après les questions au niveau de chaque pays, on va avoir les premières questions, ça va être le chômage, l'inflation, l'immigration, le système de sécurité sociale, situation économique, ça tombe, et en dernier, d'ailleurs, le terrorisme arrive à moins de 10%. Donc c'est, je pense, aussi très intéressant comme regard sur une compréhension de la façon dont les Européens, mais alors là, comme citoyens de leur pays, se posent le problème. Donc, une centralité du social, alors quand on parle plutôt de l'Union européenne au global, ce sera d'autres questions. On voit bien comment les thèmes idéologiques ne fonctionneront pas de la même manière. Voilà. Dernier point, c'est celui, ce qu'on appelle les attentes pour la prochaine période. On a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils pensaient de la période passée et quelles sont les attentes. Donc, il y a deux questions, si vous voulez. C'est la page 29. Voilà. C'est 28, 29. Bon, ça va. Situation d'économie. J'ai volontairement laissé de côté la question de l'euro et de la situation économique. Parce que là, on a quelque chose qui est global. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment. Page 29, c'est bien ça. Êtes-vous optimiste ou pas sur la situation économique? Vous avez ici une chose qui est intéressante, c'est quelles sont vos attentes des 12 prochains mois. Est-ce que vous pensez que les prochains mois seront meilleurs, moins bons ou sans changement? Situation économique aujourd'hui, hein, ça c'est aujourd'hui, ça c'était hier, mais prenons dans chaque pays, on pense que la situation sera à peu près la même, mais plutôt plus mauvaise chez 27%. Et au niveau européen, autour de 25%. Et donc, là, ça, c'est sur la situation économique. Ensuite, dans les situations personnelles, alors, il y a toujours un peu plus d'optimisme. Ça, on l'avait noté dans toutes les enquêtes d'opinion. Mais on voit bien qu'il y a à la fois une stabilité, mais plutôt une tendance à une forme d'attentisme, et quand même avec une augmentation du scepticisme et de l'inquiétude concernant l'avenir. Alors, page 30. Quel est l'impact de la crise sur l'emploi? Et ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi de voir. Donc là, on a bien effectivement l'inquiétude sur l'emploi et la crise. Là, on va avoir donc la période qu'on a connue, hein, celle des années 2010. Et aujourd'hui, à la question, est-ce que vous pensez que l'impact sur l'emploi, sur la crise, a atteint son apogée, 44%, et aujourd'hui, donc, plutôt en baisse, depuis le printemps, mais il y a 44%, c'est-à-dire à égalité, là c'est pour toute l'Europe, qui pense que le pire reste à venir. Donc on voit là des tendances comme ça, mais dans la toute dernière période, alors qu'on avait plutôt une tendance un petit peu des débuts de confiance, il y a la même inquiétude qui grandit, et quand même nombre donc de ceux qui pensent que le pire reste à venir, et ceux qui pensent que bon, peut-être ça va, c'est fini. Donc, et ça, évidemment, c'est très important pour marquer comment les consciences sont marquées. Dernier point, c'est comment est perçue l'Union européenne, à partir d'une question qui est très très importante, qui est qu'est-ce qu'il y a pour vous de positif qu'est-ce qu'il y a pour vous de positif dans l'Union européenne? Je vais laisser toute une série de questions qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas. Il fallait bien choisir. Là, on va avoir quels sont les résultats les plus positifs de l'Union européenne pour vous. C'est pas très compliqué, on aurait pu le faire sans avoir besoin d'un sondage. Ce qui est intéressant, c'est les rapports. La première, c'est la libre circulation. Ce qui est bien dans l'Europe, c'est qu'on peut circuler. On a tout. Vous voyez, là, on se sent dans un ensemble. On a là donc, est plutôt stable en progression, mais on est à presque 60% qui disent la libre circulation des personnes et bien des services. Chacun y met ce qu'il veut, mais en tous les cas, vous voyez, etc. De la paix. Et après, on a un décrochage sur, je dirais, les choses plus lourdes, plus concrètes, en quelque sorte, enfin, même si la situation est concrète, l'euro, oui, mais si on rentrait dans le détail de la perception de l'euro, il y a ceux qui disent, de toute façon, bon, maintenant c'est là, donc il faut être... L'interprétation, c'est pas forcément l'enthousiasme sur l'euro, mais, en tous les cas, ça fait partie, sans doute, des choses qui sont stables dans la perception de l'Europe. Erasmus, le pouvoir économique, ça descend, et puis alors là, on est, disons, et puis sur le social, alors... Vous voyez, là, on est quand même tombé à des niveaux de moins de 20%, de quasiment 20%. Oui, donc, le social est là. Les acquis, la libre circulation, la paix. Et après, alors, il y a des questions extrêmement importantes, comme celle-là, par exemple, qui, elles, ne sont pas considérées comme prises en compte par l'Union européenne. Voilà. Donc, je m'arrête là, parce que je voulais quand même prendre quelques éléments pour la réflexion. En conclusion... deux idées peut-être, une situation très ouverte, très dépendante aussi de ce qui se passe dans chaque pays, donc qui nous donnera en même temps, enfin qui donnera un reflet de quelles sont les tendances aujourd'hui, puisque à travers les élections seront effectivement des gens qui seront élus pour l'avenir, mais aussi qui exprimeront quelles sont aujourd'hui les grandes préoccupations, ou bien les grands thèmes politiques, ce qui ne se superpose pas forcément d'ailleurs, on l'a bien vu, vous avez vu quand on... Comme tout à l'heure, on a eu l'immigration en premier, le terrorisme en second, et après on a le chômage et le pouvoir d'achat. Donc on va avoir là une tension, en quelque sorte, entre les deux grands thèmes qu'on connaît. Hein. Et puis, évidemment, ce genre d'études ne tient pas compte, nécessairement, c'est pas la règle du jeu, mais des différenciations, de l'importance des votes protestataires, parce qu'évidemment, quand on veut mettre en avant les choses qui vont bien, on le fait, mais ce qui est préoccupant, ce sont les vrais problèmes, et par exemple, les décalages qu'il peut y avoir dans les votes et dans l'appréciation sur l'Europe, entre les couches sociales, entre les générations, d'une certaine manière aussi, c'est vrai, mais aussi entre les couches sociales et le décrochage des couches populaires dans très nombreux pays, et le vote populaire pour les populistes fait partie d'une des questions qui est posée aujourd'hui dans l'évolution des opinions, avec une dimension et nationale et européenne.